Chers auditeurs et auditrices de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui, dans Musique traditionnelle, j'ai l'honneur d'inviter Grégory Jolivet, qui va nous parler depuis Châteauroux. Bonjour Grégory.
Bonjour madame.
Bonjour Armand, qui est aux manettes.
Bonjour Mathilde Lac.
Et bonjour Zaïd, qui va monter cette émission.
Bonjour à tous, bonjour Mathilde.
Alors Grégory, nous allons écouter une de vos compositions que nos auditeurs connaissent déjà beaucoup, c'est la Scottish Urbaine. La célèbre Scottish Urbaine de Grégory Jolivet. Alors cette Scottish, quand même, on l'entend beaucoup à la radio. Ma mère l'aime beaucoup. Mes amis du Mexique l'aiment beaucoup. C'est vraiment un gros succès, hein, Grégory.
Merci, Madame Lacaze. Bah, oui, c'est une compo qui date de 2008, quelque chose comme ça, voilà.
Et, ah bon, si tard?
Si tard, voilà. Des compos, je sais plus combien il y en a, mais il y en a un certain chiffre. Je suis un peu perdu dans les dates. Voilà.
Et ben,
on joue avec l'ami David Lecroc, avec un vieux copain. C'est pratiquement mon frère. C'est quelqu'un avec qui j'ai commencé la musique aussi gamin. Et on joue sous le nom des Long Skaters. Voilà.
Long Skaters, c'est ça?
C'est ça. Ouais.
Parce que le skate, c'était une de vos passions quand vous étiez plus jeune, c'est ça?
Exactement, c'est ça.
Et alors, justement, entre le skate et la vie à la roue, parce que, chers auditeurs et auditrices, c'est de la vie à la roue que nous avons entendu, dont Grégory Jolivet joue un peu sous toutes ses formes, hein, vous allez nous expliquer tout ça. Comment avez-vous fait pour tomber amoureux à la fois du skate et de la vie à la roue?
C'est une bonne question. Je pense que c'est l'envie de faire de la musique enfant. J'étais au conservatoire à Bourges. Et puis en parallèle, gamin, j'ai été très branché par tout ce qui était street art. Donc hip-hop, BMX, graffiti, skateboard. Et puis le skateboard était une de mes passions. Voilà.
Et alors, la vie à la roue, c'est votre premier instrument?
C'est ça.
Et vous l'avez choisi, du coup, en entrant au conservatoire. Comment ça s'est passé? Comment avait cette rencontre avec la vie à la roue? Où s'est-elle passée? Parce que c'est quand même un instrument très spécifique.
Très spécifique et très ancien et très moderne à la fois. En fait, j'ai rencontré un joueur de vielle qui s'appelle Laurent Fossé, qui jouait dans le Terminus, un groupe trad du Berry des années 90. Maintenant, il joue dans Berry Plage. Et en fait, c'est un instrument qui m'a beaucoup plu. Et puis, comme j'allais aussi à la bibliothèque municipale, par chez moi, j'avais vu qu'il y avait des albums de vielle. Et le premier album de vielle que j'ai écouté, c'était Bleu Nuit de J. Chabenat.
Du coup, j'étais
aussi intéressé par la cornemuse du centre, mais il n'y avait pas de cours. En fait, quand je me suis inscrit au conservatoire, j'avais 13 ans, j'étais assez âgé déjà. Et pour débuter un instrument, en fait, j'avais soit le choix entre la guitare, le corps d'harmonie ou la guitare classique. Et j'ai choisi la vie à la roue. Et puis je suis tombé sur un super prof. Et aussi sur les premiers enregistrements, enfin le second enregistrement que j'ai écouté qui a été décisif, c'était Valentin Castrier. Voilà.
Ah oui, Valentin.
Ça a été un choc. C'est un choc culturel, on va dire, par rapport à ce qu'on peut faire avec une vielle. Et Laurent, par son enseignement, est un professeur, on va dire, qui essaie de transmettre en fait la vielle sous toutes ses formes, sous toutes ses pratiques musicales.
Oui, parce que là, vous avez quand même cité des grands noms de la vielle à roue, hein, en France. Et
oui.
C'est vrai que vous faites, en habitant à Châteauroux, vous êtes vraiment dans un terroir où il y a de la vielle à roue, de la cornemuse, également
oui.
Un grand festival qui était Saint-Chartier et qui est aujourd'hui Ars, avec un festival de luthier et de musique traditionnelle. Donc, vous avez finalement baigné là-dedans, peut-être jeune.
Assez jeune, oui, parce qu'en fait, j'ai fait mon premier concours la première année en fait où j'ai commencé à jouer. J'étais mordu de ça, et du coup, j'ai joué assez vite sur scène, peut-être même la première année aussi, j'avais fait mon premier bal avec un groupe constitué sur place.
Oui.
C'était rigolo.
Avec du local.
Du local, voilà, mais tous les ans, voilà, des rencontres, des bœufs interminables. Et j'ai aussi Saint-Chartier, ce qui était génial aussi, où ça l'est encore, bien évidemment, sous le nom du son continu. Bah, c'est le festival des luthiers, c'est l'occasion de rencontrer des gens, d'essayer des instruments. Et du coup, les concerts du soir me passionnaient parce que on avait la chance d'avoir de temps en temps des créas qui passaient comme le Vielistique Orchestra ou de voir Valentin Castrier ou René Zosso. Moi, c'est les vieux que j'ai vus en action, ou Vieli. Et Saint-Chartier, c'était vraiment le rendez-vous où du coup, on pouvait voir aussi des choses nouvelles. Et faire des rencontres, donc et apprendre du répertoire, faire le plein de CD pour l'année, c'est ça qui est génial.
Ah, c'est vrai que c'est un peu le lieu où on peut se dire tiens, allez hop, j'achète toutes les nouveautés et j'en ai pour toute l'année pour les
voilà,
travailler. Et puis rencontrer aussi.
Voilà, c'est des gens qu'on qu'on connaît un petit peu, même aussi par le biais du bal. C'est-à-dire qu'on va connaître des gens sur une trentaine, quarantaine d'années, et ça, c'est... Alors, on les connaît pas vraiment de très proche, mais il y a une convivialité qui est là, quoi. Moi, je trouve ça plutôt sympa, voilà.
Et puis aussi rencontrer les gens que vous avez, dont vous vous êtes inspiré, puisque vous dites j'ai découvert ces CD, et puis ce qu'il y a de bien en festival, c'est que vous les voyez en vrai. Et ça, c'est c'est hyper motivant.
Oui. Exactement, et moi, c'est ça qui me plaît aussi. Et même si je vais aussi dans d'autres réseaux, moi j'adore rencontrer effectivement les musiciens, les musiciennes qui m'inspirent, ou échanger avec eux. Et puis un truc que j'aime bien aussi, c'est écouter tout le monde, quoi. Donc ça, c'est chouette, quoi.
Alors la vielle à roue, je voulais juste revenir sur cet instrument pour nos auditeurs. Est-ce que vous pourriez nous décrire rapidement quel instrument c'est? Et vous avez dit que c'était à la fois vieux et à la fois très moderne.
Très moderne et très vieux. Ben, en fait, c'est que l'instrument n'est pas figé. Depuis 1000 ans, en fait, si on regarde un peu l'évolution de l'instrument, en fait, elle change de forme et s'adapte à la musique, et son look change aussi en fonction des siècles. Et il y a plusieurs âges d'or, mais on va dire que c'est un instrument qui apparaît sous Saint-Jacques de Compostelle en l'an 1000.
Ah oui.
Et aussi en Normandie, sur des sculptures, en fait, en Galice. Et c'est un instrument qui était joué par les prêtres qui faisaient du chant grégorien, les moines, pardon. Et ça, c'était un instrument qui s'appelait l'organistrum. Donc il y a une roue, un moine qui tournait une roue et un autre qui tirait les touches pour faire des accords à la quinte ou quarte pour chanter. Et puis après, ça s'est raccourci et c'est devenu la chiffonie. Et on peut voir aussi un modèle en Galice, je crois, qui est encore joué, parce que le chien est apparu il y a peu de temps sur les vielles galiciennes.
Alors le chien, c'est pas un animal.
Le chien, c'est pas un animal, c'est une corde rythmique qui est arrivée vers l'époque baroque. Mais en gros, avant qu'il y ait ce bourdon rythmique, il y avait juste l'instrument qui s'est rétréci et qui était joué par un musicien, et c'était plus ou moins destiné au chant. Voilà, donc il y avait un bourdon et un clavier sur lequel on appuyait les touches. Et
d'accord.
Puis l'instrument, à l'époque baroque et renaissance, a une forme plus ou moins définitive à l'époque du bâton. Donc on peut retrouver des traces de la Normandie jusqu'à Paris, parce que c'est un instrument, l'âge d'or de la vielle à roue, ça a été à peu près entre 1725 et 1765. Il y a tout un répertoire baroque, il y a à peu près 200 compositions, donc c'est pas du tout la même façon de jouer. Mais là, je suis en train de m'intéresser à ça, parce que ça fait partie du parcours que j'ai oublié de faire. On a une passion qui est née il n'y a pas très longtemps de ça. Et du coup, après la Révolution française, donc c'était un instrument qui était joué à la cour, en musique pastorale. Et puis ensuite, après la femme de Louis XV jouait de la vielle à roue. Et puis Marie-Antoinette aussi jouait de la vielle à roue.
Alors,
on jouait pas très très bien. Mais voilà, donc là, on avait une forme plate, comme une caisse de guitare. Et ensuite, bâton a changé. Donc ça, c'était un luthier, qui a changé la forme de la vielle, qui est devenue ronde. Une caisse, une coque de luth en dessous. Et en fait, après la Révolution française, sur à peu près 200 ans, il y a eu un village de luthiers vers Clermont-Ferrand, à Janza, où il y a eu à peu près 1 millier de vielles qui ont été faites.
D'accord.
Et puis après, à cette période-là, en 1900, 20e, il y a eu l'apparition des groupes folkloriques, et puis aussi des groupes de musique traditionnelle dans les années 70. Il y a eu tout ce travail de collectage par Pierre Panis, Roger Perron, les Dilcher, il y en a eu énormément. Après, je suis un peu moins spécialiste des collectages, mais je m'y intéresse aussi. Il y a eu toute cette période-là, dans les années 70-80, qui a fait que tout a explosé en termes de le renouveau du bal, le renouveau des instruments. Et puis, il y a eu des musiciens, effectivement, contemporains, des musiciens traditionnels qui sont intéressés à la vielle. plus la lutherie qui a repris et qui et les instruments ont changé de look. Voilà, dans les années 90, on a, enfin même 80, on a assisté à une explosion. Puis là, c'est encore en train d'exploser, quoi. Il y a des modèles de vielles qui sont absolument magnifiques.
Ben, on peut voir déjà votre vielle électroacoustique. Elle est plutôt verte, si je me souviens
pas. Voilà,
elle a une grosse peinture.
C'est une vielle alto, effectivement.
C'est une vielle alto. Alors, c'est vrai que finalement, les vielles, ça fait partie des cordes frottées, hein, c'est ça ?
C'est ça, voilà. En gros,
comme le violon, sauf que c'est une roue. c'est une roue qui frotte.
Voilà, c'est une roue qui entraîne. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une roue qui est tournée par la main droite avec une poignée. Ensuite, les cordes, elles vont dans un clavier, comme un clavier de piano ou de clavecin. On appuie sur des touches. Et les touches vont réduire la longueur vibrante.
Pincée.
Et donc on peut varier la vibration de ces cordes avec des ornementations. Et du coup, le but du jeu, c'est de mettre la main droite et la main gauche ensemble pour faire le. Parce qu'on peut faire le rythme avec ce fameux chien, là, cette corde rythmique. Il y a une pièce en bois sous l'un des bourdons qui tape contre la table. Donc c'est la main droite qui va faire ce son-là. Et puis après, on peut jouer aussi sans le chien comme une roue archet, voilà. Comme un violon. Et du coup, l'art de la vielle, pour moi, c'est d'arriver à faire résonner cet instrument parce que c'est un instrument qui peut aussi varier avec le temps. C'est un peu comme le violon, il faut faire les notes. Alors après, avec le violon, c'est des doigts qui font la note, mais pour bien faire sonner une vielle, il faut arriver à... Il y a une question de ressenti parce que, en fait, dès qu'il y a la corde rythmique, on est déjà en nuance de, enfin on est en forté, on peut pas appuyer ou faire de nuances très fortes ou non avec l'instrument. Une fois que toutes les cordes sont engagées, c'est forté. Donc après, il faut enlever des coups de poignet, dissocier les.
Voilà.
Mains.
Alors il y a du coup de poignet, il voilà, y a ça. De la touche. Alors justement pour le deuxième morceau là que vous nous avez proposé, qui s'appelle La Lame des Cygnes, c'est ça?
L'âme des signes, oui, si c'est, oui, c'est celui-là. Là, c'est donc là, la vielle est branchée par rapport au premier instrument, premier instrumental qu'on a écouté. Et là, je joue avec un trio qui s'appelle Holy Wheel, avec Jean-Laurent Kézac de la Machine, et Ben Prissé, un ami batteur qui lui est plus batteur en musique rock et chansons françaises. Et on avait monté un trio post-rock, voilà, c'est inspiré un peu du rock des années 90. Et là, la vielle est branchée sur 6 amplis. Voilà, avec des effets de guitare électrique.
On va écouter ça tout de suite alors.
Ouais. Thank you.
Génial. Alors là, nous avons entendu une version rock de la vielle. J'aime beaucoup. Avec une version un peu électrique, c'est super. Et puis, il va falloir passer tout de suite au morceau suivant. Voilà, qui va être quelque chose de complètement différent. Présentez-nous-le un petit peu, Grégory.
Alors, le prochain morceau, c'est un morceau que je joue avec Thierry Pinson, un vieux compagnon avec qui je joue en duo depuis... plus de 20 ans,
oui.
Qui s'appelle Thierry Pinson et qui joue de l'accordéon diatonique. Et ça a été aussi un de mes profs, mais un proche ami avec qui je joue, qui me conseille aussi, avec qui on échange, parce que lui est prof d'accordéon diatonique. Et puis, on a beaucoup composé ensemble. Et du coup, là, c'est un morceau que l'on joue au sein de Rue Pascal. Donc ça, c'est notre duo. Et on a une version en quartet aussi. Et là, c'est sur l'album Rue Pascal Quartet, justement, Poésie Urbaine. Et là, c'est une petite valse, jouée en diato et à la vielle. Justement, c'est toujours avec la grande vielle, alto. Donc c'est un clavier un peu plus grand. Et là, je joue que sur la chanterelle. Donc là, on a enlevé les bourdons et les cordes rythmiques. Voilà, et c'est un morceau que j'ai écrit pour Annie Di Franco, qui est une chanteuse folk engagée aux États-Unis. Voilà.
Thank you.
Et c'est sur Annie de Rue Pascal avec Thierry Pinson et Grégory Jolivet que nous terminons cette émission. Grégory, je suis sûre que vous avez plein d'autres choses à nous dire. Et donc, on vous retrouve pour une prochaine émission très bientôt.
Très bientôt. Je vous remercie, Madame Lacaze.
À bientôt, Monsieur Jolivet.
À bientôt, merci.